Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Louis Drillon, Cédric Fuentes, Arjuna Andrade, Julie Delabrosse et Aliette Ovine. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Jordan Fuentes.
Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Rocchini.
Le passé n'est pour nous qu'un triste souvenir, le présent est affreux s'il n'est point d'avenir. Un jour, tout sera bien, voilà notre espérance, tout est bien aujourd'hui, voilà l'illusion. Ces mots de Voltaire, extraits de son poème sur le désastre de Lisbonne, témoignent de cette foi dans le progrès si emblématique du siècle des Lumières, l'âge du triomphe de la raison. Deux siècles et demi plus tard, après les grandes catastrophes du XXe siècle, qu'est-il advenu de la notion de progrès ? Comment expliquer sa disparition du discours public au profit du terme d'innovation ? Et qu'est-ce que cela dit du rapport que nous entretenons avec le présent et avec le futur ? Voilà les questions qui vont nous occuper aujourd'hui. Il est 14h sur France Culture. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous allons parler de la crise du progrès et du triomphe de l'innovation en compagnie d'Étienne Klein, philosophe des sciences, producteur de la conversation scientifique sur France Culture et auteur notamment de « Sauvons le progrès » aux éditions de l'Aube, en compagnie également de Jean-Michel Beignet, professeur, philosophe, professeur émérite à Sorbonne Université, auteur avec Dominique Bourg de cet ouvrage « Peut-on encore croire dans le progrès » paru au PUF. Et en fin d'émission, Arjuna Andrade nous donnera comme chaque jour des nouvelles de l'écho.
Le progrès est le mode de l'homme. La vie générale du genre humain s'appelle le progrès, le pas collectif du genre humain s'appelle le progrès. Le progrès marche, il fait le grand voyage humain et terrestre vers le céleste et le divin. Il a ses haltes où il rallie le troupeau attardé, il a ses stations où il médite en présence de quelques canaans splendides, dévoilant tout à coup son horizon. Il a ses nuits où il dort, et c'est une des poignantes anxiétés du penseur de voir l'ombre sur l'âme humaine et de tâter dans les ténèbres sans pouvoir le réveiller, le progrès endormi. Dieu est peut-être mort, disait un jour à celui qui écrit ces lignes Gérard de Nerval, confondant le progrès avec Dieu et prenant l'interruption du mouvement pour la mort de l'être. Qui désespère à tort. Le progrès se réveille infailliblement, et en somme, on pourrait dire qu'il marche, même endormi, car il a grandi. Quand on le revoit debout, on le retrouve plus haut. Être toujours paisible, cela ne dépend pas plus du progrès que du fleuve. N'y élevez point de barrage, n'y jetez pas de rochers, l'obstacle fait écumer l'eau et bouillonner l'humanité, de là des troubles. Mais, après ces troubles, on reconnaît qu'il y a du chemin de fait, jusqu'à ce que l'ordre, qui n'est autre chose que la paix universelle, soit établi, jusqu'à ce que l'harmonie et l'unité règnent, le progrès aura pour étape les révolutions.
Bonjour Étienne Klein et Jean-Michel Beignet.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Ce sont les mots de Victor Hugo que l'on vient d'entendre, un extrait des Misérables lu par Aliette Ovine de l'équipe d'Entendez-vous l'écho. Pour commencer, quelle conception du progrès se dégage de ce texte, Étienne Klein ?
Bah, Hugo là le présente comme une sorte de force cosmique, et on pourrait dire que on n'entend plus beaucoup l'écho de ce genre de tirade aujourd'hui. C'est-à-dire que, à ma connaissance, le dernier qui parlait du progrès de cette façon-là, c'est Jean Perrin, prix Nobel de physique, le découvreur de l'atome, qui a prononcé un discours lors de l'inauguration de la Caisse nationale de la recherche en 1930, qui était l'ancêtre du CNRS. Je vous lis quelques lignes rapidement, dit Jean Perrin. Peut-être seulement dans quelques décades, je pense qu'il parlait seulement de décennies, enfin plutôt de décennies, décades c'est 10 jours, c'est quand même très rapide. Rapidement, peut-être seulement dans quelques décades, si nous consentons au léger sacrifice nécessaire, les hommes libérés par la science vivront joyeux et sains, développés jusqu'aux limites de ce que peut donner leur cerveau. Ce sera un Éden qu'il faut situer dans l'avenir, au lieu de l'imaginer dans un passé qui fut misérable.
Donc on voit que cette vision du progrès...
Et Hugo écrit le progrès avec une majuscule. On ne l'a pas entendu, mais il y a une majuscule dans le texte. Et le mot a perdu sa majuscule depuis très longtemps.
Le mot a perdu sa majuscule. Jean-Marie Beignet, on ne parle plus du progrès de la même façon. Jean-Michel Beignet, pardon.
Non, on n'en parle certainement plus de la même façon. Parce que ce que révèle Hugo, c'est que le progrès, c'est une évidence. C'est l'évidence même. Dès qu'il y a de l'humain, il y a de la marche en avant. Voilà ce que considère Hugo. Et même dans un siècle où la misère est grande, eh bien, on ne peut pas s'empêcher de penser que le progrès sera en marche, même endormi, comme il le dit. Alors je crois qu'il y a là chez Hugo quelque chose comme une espèce de revendication morale. On est moral parce que on adhère à l'idée d'un devoir-être. Il y a un devoir-être. Si on se coupe de ce devoir-être, alors on tombe dans le cynisme. Hein, et le cynisme, effectivement, c'est l'immobilisation.
Est-ce qu'il faut considérer aujourd'hui, Étienne Klein, que le concept de progrès est en crise ? Et comment expliquer cette crise ? Est-ce que le terme de progrès a véritablement été détrôné par le concept d'innovation ?
Ah oui, ça a été mesuré par des logiciels qui regardent l'occurrence des mots dans les discours publics. Gérald Bronner a produit une étude qui montre très bien que le mot progrès a été liquidé au début du XXe siècle, alors que c'était un mot structurant de la modernité. Et il a été remplacé par un mot dont on pourrait penser qu'il est lié à lui, qui est peut-être même son synonyme, le mot innovation, qui n'était pas employé dans les années 80. Moi, j'étais étudiant d'une école d'ingénieurs, j'ai vérifié auprès de mes camarades d'école que nos professeurs ne parlaient jamais d'innovation, ils parlaient d'invention,
alors
de
même
découverte,
c'est d'application. C'est un mot ancien, innovation.
C'est un mot très ancien, mais qui avait disparu du vocabulaire des ingénieurs et des scientifiques, et qui a réapparu et s'est installé au point d'aujourd'hui dominer la scène des politiques de recherche et d'innovation, comme on dit. Je sors d'un colloque à la Maison de la Chimie, là, à l'instant, et ce matin, tous les orateurs ont parlé d'innovation. Aucun n'a prononcé le mot progrès. Et d'ailleurs, juste pour revenir à Hugo, dans son texte, il y a l'idée qu'on n'arrête pas le progrès. C'est-à-dire que c'est un fleuve, on ne doit pas jeter de pierre dans ce fleuve, on ne doit pas construire de barrage, on ne doit pas le freiner. Et le sens de ce dicton, on n'arrête pas le progrès, j'ai pu le vérifier avec mes étudiants, il a changé dans ma génération. Ça voulait dire, c'est un jugement moral. On n'arrête pas le progrès, ça voulait dire, il serait moralement inconvenant de vouloir freiner le progrès parce qu'il est une bonne chose. Donc c'était une sorte de salut enthousiaste adressé au futur.
Désormais, c'est parce que c'est impossible d'arrêter
le
progrès.
Voilà, et mes étudiants répondent, non, pour nous, c'est un jugement pratique. On ne peut pas arrêter le progrès, il échappe à nos désirs, il est mu par des forces que nous ne pouvons pas contrôler, donc il est inarrêtable.
Gérald Bronner note notamment que pendant la campagne de 2007, tous les candidats avaient utilisé le mot de progrès, mais qu'en 2012, plus aucun. Alors comment expliquer que ce terme de progrès ait été détrôné au profit de celui d'innovation ? Est-ce que c'est parce que l'innovation, c'est finalement la seule réponse, ou du moins c'est présenté comme la seule réponse aux défis, aux problèmes du présent ?
Moi, je crois que du passage du progrès à l'innovation, on a perdu quelque chose qui est l'idée d'une fin bonne, d'une fin ultime qui satisferait finalement le genre humain. Et je pourrais dire la chose différemment. Je dirais qu'on est peut-être passé d'une référence à Lamarck à une référence à Darwin. Hein, le transformisme de Lamarck qui considérait que le progrès, c'est ce qu'il appelait l'épopée de l'obscur. L'épopée de l'obscur, c'est-à-dire que vraiment, de manière infinitésimale, on avance et on s'adapte toujours un peu mieux. Hein, et un jour, pourrait advenir où on serait radicalement adapté. Eh bien, aujourd'hui, on ne croit plus, on n'a jamais vraiment cru dans ce lamarckisme. On est plutôt darwinien. Et le darwinisme, c'est plutôt de se dire que voilà, il y a une dissémination de possibles hein, dans l'évolution naturelle. Il y a des possibles multiples qui vont peut-être se dupliquer et se dupliquant, ils vont peut-être muter et mutant, ils vont peut-être faire advenir quelque chose. Et l'innovation, dont on parle tant, c'est très souvent cette invitation à mettre sur le marché des objets objets de toutes sortes, et attendre que, précisément, le marché, les pressions sélectives conditionnant ce marché, eh bien, sélectionnent celles qui viendront. Mais il n'y a pas de fin.
Alors, dans quelle mesure s'agit-il d'une trahison de l'esprit des Lumières ? Et d'abord, peut-être qu'il faut commencer par définir cette vision de l'avenir au siècle des Lumières, Étienne Klein.
Moi, je crois qu'il y a plusieurs définitions possibles de l'idée de progrès. D'ailleurs, si on regarde dans les dictionnaires, on voit qu'elles ne concordent pas toutes, mais elles ont quand même un point commun qui est de dire que croire au progrès, finalement, c'est penser qu'on peut relativiser le négatif. Il y a ce qui ne va pas, n'est pas absolument condamné à ne pas aller, c'est le ferment du meilleur, il faut travailler dessus pour le sortir de sa négativité. Et donc ça suppose d'avoir dans la tête une claire séparation entre le bien et le mal. Et ça c'est la première remarque. La seconde, c'est que le seul fait d'invoquer le progrès de cette façon met la société en crise, puisque ça l'invite à se comparer à autre chose qu'elle-même, à regarder ses défauts pour voir comment les corriger. Du coup, elle apparaît comme imparfaite. Je pense que dans la philosophie des Lumières, il y a plusieurs aspects qu'on pourrait lister, comme on dit, mais le point qui me paraît important et qui a fait faillite, d'une certaine façon, c'est l'idée d'un embrayage automatique qui existerait entre les différentes formes de progrès. Progrès scientifique qui enclencherait de façon presque mécanique un progrès technologique qui lui-même engendrerait un progrès moral, matériel, politique... spirituel peut-être, et ça n'a pas vraiment fonctionné. Il y a un article de D'Alembert dans l'encyclopédie, à l'entrée géomètre. Géomètre, c'est l'ancien mot pour mathématicien. Et D'Alembert dit, mais prenez une société tyrannique, à l'intérieur de cette société, formez quelques géomètres, quelques mathématiciens, et quelques temps plus tard, la société en question se libérera de son joug.
Donc une foi D'Alembert
n'a pas visité la Corée
technique.
Du Nord, où il y a d'excellents géomètres.
Alors, Jean-Michel Beignet, ce qui est intéressant, c'est qu'au XVIIIe siècle, on regarde davantage vers l'avenir avec cette notion de progrès, là où au XVIe siècle, les humanistes, eux, prenaient un retour au texte antique. Donc on a une rupture au XVIIIe siècle.
Oui, je crois que le XVIIIe siècle marque bien cette rupture entre, au fond, entre deux conceptions de la vie et de la création. Hein. Soit la création, au sens religieux du terme, est achevée, et le monde est achevé. Et dans un monde qui est achevé, la seule chose que doivent faire les hommes, c'est de trouver leur place, leur juste place. Le sage, c'est celui qui a trouvé sa place. Mais en tout cas, ça ne bouge pas, ça ne doit pas bouger. La seule chose que nous ayons à faire, c'est au fond d'imiter au mieux les anciens. Ce que faisaient les humanistes, imiter les anciens, se ressourcer auprès des anciens pour trouver sa juste place. Et c'est cette idée de la création qui a finalement disparu au tournant de la Renaissance, avec cette idée que la création est peut-être inachevée. Certains même diront qu'elle est ratée, disons simplement, elle est inachevée. Donc il faut la parachever. Francis Bacon, par exemple, qui utilise le terme d'innovation, est l'un des propagandistes de cette idée d'une création inachevée que nous devons parachever. La grande idée du XVIIIe siècle va être celle formulée par Rousseau, paradoxalement, puisque Rousseau aurait pu aussi être le défenseur de la tradition et d'une nature figée. Mais ce grand mot, c'est la perfectibilité. Ce qui caractérise, ce qui définit l'homme, c'est son aptitude à se perfectionner, à la différence des animaux qui sont à la naissance exactement ce qu'ils seront à leur mort.
Alors, où en sommes-nous aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut dire qu'on a perdu cette idée du futur, Étienne Klein ? Et est-ce que c'est lié au fait que notre époque contemporaine serait caractérisée par une obsession du présent, là où les prémodernes, on l'a vu, regardaient vers le passé, et les modernes, eux, vers l'avenir ?
Alors en écoutant France Culture l'autre jour, j'écoutais Régis Debray qui rappelait que Clémenceau avait fait remarquer un jour qu'un discours de Jaurès se reconnaissait à ce que tous ses verbes étaient au futur. Bon, Jaurès a été assassiné, et peut-être avec lui une certaine façon de conjuguer les verbes. On a du mal à configurer le futur. Moi, adolescent, on parlait tous les jours de l'an 2000, dans les années 70 ou 80. Et aujourd'hui, plus personne ne parle de 2050 d'une façon qui soit à la fois crédible et attractive. Ce qui est la condition pour qu'on puisse parler de progrès. Il faut que l'image du futur soit crédible. C'est pas l'utopie, le progrès. Donc il faut y croire. Et il faut que ce soit attractif pour qu'on fasse les efforts nécessaires pour le faire advenir cet état de la société qu'on a désiré. Donc et aujourd'hui, il me semble que l'avenir est laissé en jachère intellectuelle, en déshérence libidinale même, de sorte que les discours... catastrophistes prennent le dessus, parce que le futur, c'est un peu comme on a pu le dire de la nature à une époque, il a horreur du vide. Et donc si on n'en parle pas, si on ne le configure pas, si on ne le dessine pas, alors il se laisse investir par des sortes d'angoisses.
Cette perte du futur, elle se traduit par une obsession pour l'actualité, par exemple, Jean-Michel Beignet.
Ce qui est intéressant, j'aime beaucoup cette évocation du futur. On trouve chez George Steiner, dans Après Babel, cette idée que l'humanité se conjugue au futur. Il n'y a d'humanité que parce qu'il y a la possibilité d'utiliser la conjugaison au futur. Donc, de fait, on pourrait s'alarmer. Là, aujourd'hui, on voudrait supprimer le passé simple. D'ici qu'on veuille supprimer le futur, il n'y a plus qu'un pas. Mais c'est vrai que quand on regarde les choses, même sur quelques décennies, on s'aperçoit qu'on a supprimé le commissariat général au plan, Hein. On a supprimé pratiquement tout ce qui relevait de la prospective, de l'anticipation, hein, comme si finalement c'était quelque chose de voué à l'échec, hein, planifié, anticipé, hein, sur une situation programmée, c'est quelque chose dont on se sent plus capable et on n'est plus capable au fond que d'accompagner quelque chose.
Étienne Klein.
Alors l'Europe en 2010 a voulu justement redonner un plan pour l'Europe, quitter le traité de Lisbonne qui faisait de l'Europe une société de la connaissance pour faire de l'Europe l'union d'innovation. Elle s'est donné un horizon, c'est 2020. 2020, vous voulez le court terme.
Alors, est-ce que nous sommes collés au présent, car nous avons conscience, peut-être, que notre avenir est hypothéqué par la crise environnementale. On va écouter le philosophe Olivier Rey, pour qui les crises nous obligent à repenser la notion de limite.
Pour redonner un contenu positif à l'idée de limite, il faudrait, en mobilisant d'anciennes ressources de la pensée, comprendre à nouveau que la limite n'est pas principalement ce qui nous empêche d'être, mais au contraire ce qui nous fait être et grandir. Alors les crises ont ceci de bon que, selon l'étymologie du mot, elles placent devant des alternatives. Et une grande alternative philosophique qui est placée devant nous, c'est de savoir si nous serons capables, les limites, nous sommes confrontés à elles, si nous serons capables de les vivre sur un mode positif ou si nous resterons coagulés dans notre conception négative de la limite. Comme l'a écrit Robert Spahemann, le philosophe allemand, « Pour l'avenir, tout va dépendre de notre capacité à voir dans la limite que l'écologie pose à l'expansion de notre domination de la nature, une limite sensée, c'est-à-dire un télos, une limite dont le respect nous mène à l'accomplissement de ce que nous sommes véritablement en tant qu'hommes. Ce n'est qu'à cette condition que la conscience écologique pourra devenir une partie constitutive de la vie bonne, au lieu d'être une justification idéologique de la dictature.
Étienne Klein, notre avenir va dépendre de notre capacité à accepter les limites imposées par notre planète finie.
Oui, plutôt que de rêver de les dépasser sans cesse, je suis pleinement d'accord avec Olivier Rey sur ce point, mais j'ajouterais que dans notre difficulté à prévoir le futur et à le configurer, s'ajoute le fait que nous avons pris conscience, nous avons appris que nous allons de plus en plus dépendre de choses qui dépendent de nous. Et donc comment savoir ce qui va se passer si ce qui va se passer dépend de ce que nous allons faire? Et je pense qu'il y a là une sorte d'incertitude qui fait que nous avons l'impression que le présent est devenu liquide, il n'y a plus vraiment de base sur laquelle on puisse asseoir des prédictions. On peut le faire sur des questions comme l'énergie, comme la démographie, comme le climat. Mais justement quand on le fait, on a des prédictions qui sont plutôt sinistres. De sorte que, quand on a un discours qui est crédible, un discours, disons, scientifique, il n'est pas très attractif. Et quand il est attractif, il n'est pas crédible. Et c'est ce tiraillement, ce divorce entre la crédibilité et l'attraction qui, à mon avis, explique pourquoi l'idée de progrès est en crise.
On ne cherche plus aujourd'hui à inventer un autre monde, mais à empêcher le délitement de l'actuel, Jean-Michel Beignet. Alors, sur quelle vision du temps cette argumentation s'appuie-t-elle?
Je crois que la question est importante. Peut-être qu'il faut revenir à une distinction qu'avait faite Kant entre la limite et la borne. Kant, dans la critique de la raison pure, s'oppose à Hume, hein, qui avait voulu décrire la nature humaine et établir, en quelque sorte, les bornes qui permettent de définir, d'enclore cette nature humaine. Et Kant objectait la notion de limite. Alors, je ne vais pas trop gloser Kant ici, mais en tout cas, il me semble que la notion de limite appelle la notion de transgression. Et la notion de transgression peut appeler elle-même la notion de structuration. Moi, je redouterais beaucoup que nous entendions la limite comme une borne, hein, qui nous enfermerait, hein, dans une fixité. Et je préférerais largement, hein, qu'on revendique cette notion de limite appelant la transgression et appelant le conflit. Les limites appellent le conflit. Et je crois que rien ne serait pire qu'une humanité qui se défilerait devant les conflits. Et je crois que c'est souvent ce qui se produit aujourd'hui. Nous nous défilons devant la question du conflit, au prix quelquefois de développer ce qu'on appelle la dépression, tout simplement. Nous sommes une société fondamentalement déprimée, nous n'avons plus d'attraction pour l'avenir. Nous ne savons plus conjuguer le futur. Hein, et finalement, ce qu'il nous faudrait, c'est renouer avec le conflit et avec le sens de l'offensive.
Et alors justement, Étienne Klein, vous citez Luc Ferry qui disait « Croire au progrès, c'est accepter de sacrifier du présent personnel au nom d'un futur collectif. Or, si on veut se sacrifier aujourd'hui pour sauver demain, encore faut-il avoir une conception du futur et une conception positive. » Et là, je reviens sur cette question de la vision du temps.
Il faut en effet avoir une philosophie de l'histoire, carrément. Il faut être capable de donner sens à nos actions présentes par une certaine idée du futur. Il y a l'idée de sacrifice que Kant, d'ailleurs, lui-même revendiquait en l'associant à l'idée de progrès. Le progrès n'est pas automatique. Et donc, pour qu'il advienne, il faut accepter de se sacrifier pour lui. Et on se sacrifie parce qu'on a une certaine idée de ce que pourrait être la vie de nos enfants, de nos successeurs, si nous consentons au sacrifice nécessaire. Jean Perrin, dans le texte que j'ai cité, parle lui aussi de sacrifice. Et ce qui me semble montrer l'inversion de signe, pour le coup, dans le rapport au temps, c'est ce que je rappelais tout à l'heure à propos de la Commission européenne. Le texte qui veut faire de l'Union européenne une union d'innovation à l'horizon 2020 commence par ces quelques lignes. La compétitivité, l'emploi et le niveau de vie du continent européen dépendent essentiellement de sa capacité à promouvoir l'innovation, qui est également le meilleur moyen dont nous disposions pour résoudre les principaux problèmes auxquels nous sommes confrontés et qui chaque jour se posent de manière plus aiguë, qu'il s'agisse du changement climatique, de la pénurie d'énergie et de la raréfaction des ressources, de la santé et du vieillissement de la population. Fin de citation. Autrement dit, ce texte s'appuie sur l'idée d'un temps corrupteur, d'un temps qui dégrade les situations, et l'innovation est ce qu'il faut faire pour empêcher que le monde se défasse. Et donc c'est un texte qui rompt avec la philosophie de Lumière pour laquelle le temps était constructeur, complice de notre volonté et complice de notre liberté, même s'il peut y avoir des accidents dans l'histoire. Ça veut dire que ce texte de la Commission européenne, moi je le trouve un petit peu mortifère, parce qu'il reprend quasiment mot pour mot les textes de Francis Bacon, dans le livre que citait Jean-Michel Beignet tout à l'heure, qui s'appelle Essais et conseils civils et moraux, qui date de 1625. Il y a un chapitre sur l'innovation technique dans cet ouvrage. 1625, c'est bien avant le siècle des Lumières. Et ce que dit Bacon, c'est que le temps abîme les choses. Il est corrupteur. Et donc, c'est le mal qui l'emporte. Sauf si on fait l'effort d'innover pour que rien ne change. Donc, l'innovation est associée à un principe de conservation et non pas à un principe de révolution.
Alors, dans cette disparition de l'idée de progrès, il faut évidemment citer les grandes catastrophes du XXe siècle. C'est ce qui nous a fait entrer dans l'ère de l'après-progrès. Est-ce qu'on pourrait dire, Jean-Michel Beignet, que la post-modernité, c'est en quelque sorte la modernité, mais sans l'illusion ?
Oui, absolument. Les grands événements du XXe siècle qui ont sonné le glas du progrès, c'est la guerre de 14-18. Hein, on cite toujours Paul Valéry, hein, affectant de découvrir que avec la guerre, on sait que les civilisations sont mortelles, hein, et on découvre que la science qu'on pensait être au service du bien peut se mettre au service du mal, puisque elle a contribué à l'effort de guerre, aux catastrophes de la guerre, et on peut dire que ça a constitué effectivement un traumatisme pour toute une génération, toute la génération des intellectuels de l'entre-deux-guerres est en train de dégratigner l'idée de progrès. Ça ne passe pas immédiatement dans le public, mais la littérature, Bernanos par exemple, signale que cette idée de progrès finalement est une illusion complète. Et puis il y a eu les totalitarismes, il y a eu Hiroshima, il y a eu ces grands épisodes qui tout à coup ont révélé aux hommes que la volonté qu'ils mettaient à transformer les choses, à se rendre maître des choses, pouvait être complètement maléfique et conduire au pire. Et je crois que c'est ça qu'on a dit. Au fond, le totalitarisme, c'est le produit même de la perversion de la volonté humaine lorsqu'elle se met en tête de transformer le monde et de faire advenir le bonheur. Alors la postmodernité, effectivement, c'est ce constat qu'on n'ira pas plus loin. On n'ira pas plus loin. On cesse d'être moderne pour être postmoderne, et on se donne uniquement comme objectif de recollecter ce qui a eu lieu. Recollecter pour essayer de retrouver une espèce d'assise qui nous permette de, malgré tout, de vivre au présent.
Et c'est lié aussi au concept de la fin de l'histoire, Étienne Klein, qui est théorisé à la fin du XXe siècle.
Oui, mais je ne pense pas que c'était un bien... Ça veut pas dire, ne plus croire au progrès, ça ne veut pas dire que l'histoire se termine. Il peut y avoir des accidents, il peut y avoir des révolutions, il peut y avoir des bifurcations, des ruptures. Mais je suis d'accord avec Jean-Michel pour dire qu'à mon avis, le vrai point de basculement, c'est la guerre de 14-18. Parce que la science se retourne contre l'homme. Drieu-La Rochelle, qui est un auteur qu'on cite rarement, disait à propos de ses camarades décimés par les mitrailleuses allemandes, il écrit cette phrase « Nous étions les victimes de vieux calculs oubliés ». C'est-à-dire que c'est des espèces de machines découplées de l'homme qui les a conçues, qui organise le massacre. Et la suite de l'histoire n'a fait que confirmer ce retournement, même si entre les deux guerres, il y a, pour l'idée de progrès, une période de sursaut avec un enthousiasme lié à la vitesse, notamment.
Oui, ce qui est Jean-Michel Beignet. C'est qu'on a l'impression que c'est le moment où le progrès va apparaître comme une fatalité. C'est étonnant parce qu'il y a deux conceptions du temps différentes. Le progrès qui ouvre une temporalité et la fatalité qui, au contraire, l'écrase en montrant que tout est déjà joué. Eh bien, quand Horkheimer écrit, par exemple, « Le progrès se paie toujours de choses effroyables », c'est ce qu'il dit. On n'arrêtera pas le progrès, effectivement. Le progrès, c'est notre destin à nous de moderne. Et simplement, il faut endurer les catastrophes qu'il induit. Et c'est comme ça. Et donc, on va éventuellement penser la démocratie comme la manière de s'accommoder, de se concilier le temps et les initiatives que nous prenons. Mais en tout état de cause, le progrès devient une espèce de fatalité. Chez Heidegger, c'est aussi très très clair, le destin de l'être, comme il l'appelle, qui est une manière de dire que voilà, il y a des choses inexorables qui s'installent et avec lesquelles il faut tâcher de faire, de composer.
Et puis les Lumières avaient théorisé le principe d'une diffusion du progrès au sein du genre humain tout entier. Or, ce qu'on observe au XXIe siècle, c'est que le progrès est sélectif, qu'il ne touche qu'une partie de l'humanité, Étienne Klein.
En effet, c'est la grande rupture. Il parle de genre humain, on n'en parle plus. Les post-humanistes ne parlent de l'avenir que pour une petite partie de l'humanité. Et je pense que si on imaginait une capsule temporelle capable de faire revenir en 2018 les pères fondateurs de l'idée de progrès, les philosophes des Lumières, d'Alembert, Condorcet et quelques autres, la première chose qui les choquerait et qui leur ferait penser qu'il y a une allothélie, que le but visé n'était pas le but atteint, ou plutôt que le but atteint n'était pas le but visé, c'est de voir des gens dormir dans Paris, sur les trottoirs en plein hiver. Ça, ils ne comprendraient pas, je pense.
Aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est le fait que le progrès, c'est désormais de faire toujours plus plutôt que de faire mieux. On peut citer par exemple l'exemple de l'iPhone 10 par rapport à l'iPhone 8, Jean-Michel Beignet.
Oui, c'est une manière de caractériser ce remplacement du progrès par l'innovation. Un progrès pensé sous l'angle de l'innovation, c'est un progrès qui ne se mesure que quantitativement, en termes de plus, et plus en termes de mieux. Alors que, au point de départ, le progrès, le progressus, c'est-à-dire le pas, c'était accompagné du mieux, et désigné par conséquent cette espèce de qualité plus grande que le temps permettait de scander et d'accompagner. Et de fait, aujourd'hui, il n'est plus question, Étienne évoquait le post-humanisme, il n'est plus question que d'augmenter les choses, d'augmenter l'humain, d'augmenter la réalité, d'augmenter. Mais en aucune façon, on ne se pose la question du mieux.
L'innovation est présentée comme souhaitable car elle permet d'alimenter le marché économique, mais pas parce qu'elle apporte un mieux, Étienne Klein.
On ne sait pas à l'avance. Paul Valéry le disait aussi, l'homme sait en général ce qu'il fait, mais il ne sait pas ce que fait ce qu'il fait. Donc on teste des trucs, on tente, et puis on regarde ce qui se passe. C'est un peu ça l'idée.
Ça, c'est très darwinien.
Voilà, il n'y a pas de projet, il faut le faire, parce que sinon on va disparaître du champ de la concurrence, ou bien avoir des défis dont la gravité augmentera, etc. Et donc c'est pas très excitant, et donc si on croit au progrès, il est important de soumettre l'idée de progrès à elle-même, c'est-à-dire de la faire progresser. Jean-Michel vient de parler de quantitatif. Je crois qu'il y a à peu près 1 milliard de personnes vivant aujourd'hui qui n'ont jamais vu une prise de courant électrique de leur vie. Et donc, si on proposait à un philosophe des Lumières de regarder une entreprise dans laquelle on fabrique des téléphones, comme l'iPhone 10 par exemple, il dirait c'est extraordinaire, c'est une chose qu'eux-mêmes n'avaient pas envisagée, qui dépasse toutes les imaginations qu'ils avaient pu mettre en branle. Et il dirait, mais vous, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allez le généraliser, réduire les coûts pour le diffuser le maximum. Ah non, non, on va leur répondre, non, non, il faut qu'on fasse rapidement l'iPhone 11, sinon la boîte coule.
On va continuer à parler du progrès et de l'innovation avec Étienne Klein et Jean-Michel Beignet dans un instant.
Autrefois, pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant, c'est plus pareil. Ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau, une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs, des draps qui chauffent, un pistolet à gaufre, un avion pour deux. Et nous serons heureux. Autrefois, s'il arrivait que l'on se querelle, l'air lugubre, on s'en allait en laissant la vaisselle. Maintenant, que voulez-vous? La vie est si chère. On dit rentre chez ta mère et on se garde tout. Ah, Gudule, excuse-toi ou je reprends tout ça. Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer et mon poêle à mazout, mon cire-godasse, mon repas solimace, mon tabouret à glace et mon chasse-filou, la tourniquette à faire la vinaigrette, le ratatine ordure et le coupe-friture. Et si la belle se montre encore rebelle, on l'affiche dehors pour confier son sort au frigidaire, à l'efface poussière, à la cuisinière, au lit qui est toujours fait, aux chauves-savates, aux canons à patates, à les ventres tomates, à l'écorche poulet. Mais très très vite, on reçoit la visite d'une tendre petite qui vous offre son cœur. Alors on cède, car il faut qu'on s'entraide. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois.
Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho, Tiffaine de Rocchini.
C'était La complainte du progrès de Boris Vian. Nous sommes en compagnie d'Étienne Klein et de Jean-Michel Beignet pour parler du progrès et de l'innovation. Alors, quelles différentes formes Jean-Michel Beignet a pris au cours des 50 dernières années cette perte de la foi dans l'idée de progrès dont on a parlé, jusqu'à, par exemple, cet engouement contemporain pour la sagesse invitant à cultiver le présent?
Je crois que vous avez pratiquement répondu à votre question en évoquant la sagesse. Je crois que ces 10-20 dernières années, on a vu déferler une offre en matière de sagesse venant éventuellement du bouddhisme ou venant de l'antiquité grecque ou autre. On a vu les philosophes se faire tout à coup les chantres des sages de l'antiquité. Et ça, c'est inducteur, hein, parce que ça veut dire que c'est le culte du présent qui prédomine, hein, c'est le fameux carpe diem, hein, qui est devenu l'adage de pratiquement tous les désabusés du progrès. Il y a ça, donc, éloge de la sagesse, ou alors une promotion du cynisme, d'un cynisme un petit peu souriant, qui peut être épicurien, qui dit ben voilà, il faut manger les raisins de l'existence, hein, au jour le jour. Ce cynisme, il s'est traduit par exemple chez quelqu'un comme Clément Rosset, qui invitait à la démobilisation. Hein, être sage, réussir en philosophie, c'est être capable de se foutre de tout. Il le dit dans ces termes-là. Se foutre de tout, c'est l'apogée. André Comte-Sponville a quelquefois donné prise également à cela, en disant qu'au fond, l'essentiel, c'était de désespérer. Commençons par désespérer. Délivrons-nous de l'espoir, qui est toujours déceptif. Délivrons-nous du passé, qui est toujours nostalgique. Hein, sachons vivre au présent et considérons que l'éternité, c'est le présent éternel.
Alors, ce qu'on constate, c'est que contrairement à ce que professait Condorcet, comme on commençait à le dire, le progrès scientifique et le progrès moral semblent désormais séparés. Sauf que le problème, c'est que pour permettre un progrès moral, il faut être d'accord sur ce qu'on appelle le bien, et c'est là que le bât blesse, Étienne Klein.
Oui, parce que c'est souvent au nom du bien qu'on fait le mal. Enfin, tous ceux qui font le mal se revendiquent du bien dans leur façon de présenter leurs actes. Le nazisme, par exemple, est une théorie qui explicite ce qu'est une très bonne société et qui du coup va éliminer ce qui fait tache dans le paysage qui lui est présenté. Donc cette séparation n'est pas si nette et donc on devrait en effet davantage se mettre d'accord sur ce que nous appelons le mal absolu plutôt que de tenter de nous accorder sur le bien qui est la raison principale pour laquelle nous nous faisons la guerre.
Peut-être faut-il également se poser la question du risque que représente une innovation pour faire progresser l'idée de progrès, comme vous dites, Étienne Klein. Pendant longtemps, le risque a été considéré comme inhérent au progrès, comme on peut l'entendre dans ce très beau discours de Lamartine, prononcé en 1842 devant la Chambre des députés. C'était juste après la grande catastrophe ferroviaire de Meudon qui avait fait 55 morts.
Ne décourageons pas le pays, ne dégoûtons pas le pays d'un instrument de civilisation sous le prétexte de le confondre avec de misérables intérêts de localité. L'esprit public, permettez-moi de le dire tristement en finissant, n'a été que trop contristé, trop découragé par le sinistre événement dont nous avons été témoins avant-hier, par cette catastrophe qui a jeté, pour ainsi dire, une crêpe sur l'ensemble de cette discussion. Il semble que la Providence veuille faire payer à l'homme chaque nouveau développement de force qu'elle lui permet d'acquérir par des périls nouveaux, par des afflictions nouvelles. Eh bien, je le dis, quelle que soit notre juste douleur, quelle que soit la profonde sympathie de la nation, elle ne doit pas se laisser décourager, ni décourager l'esprit public de la grande pensée qui l'occupe. Il faut payer avec larmes le prix que la Providence met à ses dons et à ses faveurs. Il faut le payer avec larmes, mais il faut le payer aussi avec résignation et avec courage. Messieurs, sachons-le, la civilisation aussi est un champ de bataille où beaucoup succombent pour la conquête et l'avancement de tous.
Voilà un extrait du discours de Lamartine lu par Cédric Fuentes de l'équipe d'Entendez-vous l'écho. Ce qu'on entend dans ce texte, c'est qu'on ne peut pas échapper au risque si on veut progresser, Étienne Klein.
On ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs.
Cette vision du risque, elle n'existe plus aujourd'hui.
En tout cas, elle est plus défendue à l'Assemblée.
C'est plutôt
les ingénieurs d'ailleurs sont tiraillés entre deux injonctions contradictoires, celle d'innover et le principe de précaution.
Aujourd'hui, c'est le règne du principe de précaution, c'est la toute puissance du principe de précaution, Jean-Michel Beignet.
Oui, le principe de précaution qui a été très très mal lu en général, puisqu'on l'a toujours interprété comme un principe de démission, de défection, mais peu importe, non, c'est sûrement un peu dommage, il faudra peut-être y revenir là, tout de suite, mais en tout cas je crois que ce que le principe de précaution consacre, c'est l'idée qu'on ne peut plus soutenir que la technique réparera les désordres qu'elle produit. On a longtemps cru que c'était cela, le destin de la technique. Elle produit des dégâts, mais elle trouve toujours la bonne solution pour réparer ces dégâts. Le sang contaminé est un des derniers événements qui a peut-être mis en lumière cette espèce de conviction de fond que, comme disait Étienne à l'instant, on est obligé de casser des œufs hein, si on veut faire une omelette. Je crois que c'est ça que le principe de précaution, ou plutôt le rejet du principe de précaution a mis en lumière. C'est qu'on est plus prêt à cela. Pour quantité de raisons, sans doute. Peut-être que la vision englobante qu'on a de la planète aujourd'hui et qu'on n'avait pas il y a un siècle a cru la crainte. Hein. On est tétanisé à l'idée que ce que l'on peut produire localement peut avoir des effets qui sont des effets planétaires. Mmh. Hein, et du coup, on prend plus de petits risques. Hein, le moindre risque est potentiellement planétaire.
Alors que représente aujourd'hui ce principe de précaution pour le philosophe Pierre-André Taguieff? Le principe de précaution est en réalité un principe de discernement.
La condition humaine est une aventure humaine, en quelque sorte. Et le caractère aventureux de l'évolution humaine serait, en quelque sorte, brisé par le principe de précaution. Mais je pense qu'il y a une autre interprétation positive du principe de précaution comme principe de discernement. Nous sommes dans le doute. Hein, nous l'avons vu. Nous sommes dans un certain désarroi, une certaine situation générale d'incertitude. Et dans l'incertitude, la position classique, c'est dans le doute, abstins-toi. Mais on pourrait aussi dire dans le doute, mets tout en œuvre pour agir au mieux. Par exemple, essaie, lance de nouvelles recherches pour pallier les dégâts, en quelque sorte, des avancées technoscientifiques. Le principe de précaution peut être aussi un principe d'action et un aiguillon pour la recherche, pas seulement ou pas nécessairement, comme le disent certains critiques, certains scientifiques notamment, qui ont très peur d'un arrêt de la science, un principe de frilosité.
Le principe de précaution peut être un principe d'action, malgré ces injonctions contradictoires dont vous parliez, d'un côté innover, de l'autre être prudent.
Tel qu'il est rédigé dans la Constitution, c'est un principe d'action. C'est-à-dire quand il y a une incertitude jugée trop grande, on doit faire des efforts de recherche notamment pour réduire cette incertitude. Le problème, outre le fait que, comme l'a dit Jean-Michel, ce principe est mal lu, il en existe en fait deux versions. Il y a la version qu'on vient d'indiquer, qui est la bonne, et puis il y a une version plus médiatique, par laquelle on invoque le principe de précaution pour réduire non pas les dangers, mais l'angoisse ou l'anxiété. Et donc il est invoqué pour, quand il y a des peurs, justifier qu'on leur accorde un certain traitement, sans que ça signifie forcément qu'on va, par la même chose, réduire les dangers correspondants.
Le problème, Jean-Michel Beignet, c'est qu'on se sent désormais impuissant vis-à-vis de notre propre puissance. C'est la technique qu'on a créée qui aujourd'hui a des conséquences qu'on ne parvient pas à régler.
Oui, absolument. Je crois qu'on a laissé s'installer une espèce de principe d'immaîtrise, comme dit quelquefois Jean-Pierre Dupuis, sur la base d'une espèce de déception aussi par rapport à nos objectifs anciens. Nous avons tellement créé de désordre dans le monde que nous concevons maintenant une grande défiance à l'égard de notre volonté, volonté d'agir, et par conséquent, on est presque enclin à s'abandonner aux machines très performantes que nous avons fabriquées pour qu'elles prennent les initiatives ou qu'elles prennent les décisions. Alors évidemment, dit comme cela, ça paraît choquant et scandaleux, mais dans les faits, c'est quand même de cela qu'il s'agit. L'intelligence artificielle, c'est ça qu'elle accompagne dans l'idée de bien des gens. On va avoir des dispositifs qui vont pouvoir prendre les commandes, là où précisément nous avons échoué lorsque nous les tenions.
Alors comment dessiner nous-mêmes un avenir collectif qui soit donc à la fois crédible et désirable, car le problème, Étienne Klein, vous l'avez dit, c'est que les découvertes scientifiques ne nous disent pas ce que nous devons faire d'elles. Alors sur quoi appuyer nos décisions, sur quelles valeurs?
En effet, les connaissances scientifiques, elles apportent dans leur sillage une sorte d'ignorance. C'est-à-dire, elles ne nous disent pas ce que nous devons faire de ce qu'elles permettent de faire. Einstein l'avait déjà remarqué dans une conférence qu'il a donnée à Princeton en 1939. Il a conclué en disant « Il n'y a pas de chemin qui aille de la connaissance de ce qui est à la connaissance de ce qui doit être. » Donc la physique nous dit comment faire des centrales nucléaires, elle ne nous dit pas si nous devons les faire. Et donc il faut discuter. Si on croit au progrès, alors ça veut dire que la science est enchâssée dans un projet de civilisation. Et on doit tenter de faire tout ce que la science permet de faire, parce qu'en général, c'est pour le bien qu'elle se mobilise. Mais aujourd'hui, alors, puisque l'idée de progrès est problématisée ou est en crise, on ne peut plus invoquer le progrès comme une sorte d'instance transcendantale qui va donner sens à nos actions et guider nos choix. De sorte que ce sont les valeurs qui se combattent, et on voit bien que les valeurs ont moins de puissance que les principes, puisque la valeur d'une valeur dépend des évaluateurs. Et au conseil scientifique de l'Office parlementaire pour l'évaluation des choix scientifiques et techniques, quand il y a des débats, on voit que ce sont les valeurs qui se mettent sur la table. Certains invoquent des valeurs économiques, d'autres des valeurs écologiques, d'autres des valeurs néo-rousseauistes, d'autres des valeurs de santé, etc. Mmh. Et c'est très très difficile de faire converger les discussions vers quelque chose qui soit acceptable partout. C'est pour ça que, en matière de technologie, qu'on pense aux OGM, au nucléaire et à d'autres sujets de ce type, les décisions sont très difficiles à prendre.
Car toute la question, c'est de savoir ce que l'on veut faire socialement, des savoirs et des pouvoirs que donne la science. C'est une question qui est éminemment politique et qui nécessite à la fois des débats d'experts et des délibérations de la société civile.
C'est très difficile. Il y a eu un débat national en 2010 sur les nanosciences qui s'est très mal passé, qui n'a pas intéressé grand monde. Et quand il y a eu des réunions, elles ont été assez violentes. De toute façon, on n'a pas trouvé le système permettant d'organiser la discussion.
Pour quelles raisons elles ont été aussi violentes ?
Alors ça, il y a un livre de M. Lippmann qui date de 1925 qui parle du public fantôme. Il montre dès 1925 que les gens ne s'intéressent pas tellement à la science. Ils réclament d'être informés, mais quand il s'agit d'en débattre, ils préfèrent faire autre chose.
Cet échec du débat sur les nanotechnologies, il tenait quand même aussi à une espèce d'incurie de la part des politiques qui programmaient ce débat. Au fond, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que on n'introduit pas un débat dans l'espace public sur la base de la confrontation à des experts qui vont nous expliquer les avantages et les inconvénients que nous avons d'accueillir des nanotechnologies. On avait dans les salles, lorsque le débat se produisait, des gens qui étaient là pour répondre à la question éthique fondamentale: comment bien vivre? Et va-t-on mieux vivre avec les recherches sur l'invisible qui sont associées aux nanotechnologies? Et il y avait face à ces gens-là des experts en tribune qui, eux, délivraient ex cathedra les avantages et les inconvénients des produits qu'ils défendaient. Comment voulez-vous? Là, on était dans le malentendu le plus complet.
Alors, qui doit prendre en charge cette question très politique? Écoutons ce qu'en dit le sociologue Gérald Brunner.
Il y a une ingénierie sociale à inventer pour la délibération collective, c'est-à-dire comment effectivement pourrions-nous décider collectivement. Le danger, je l'ai dit, c'est l'impression de connaître. Si les gens veulent décider sans avoir la compétence, mais qu'ils sont informés à une mauvaise source, bah ça donne des décisions collectives qui sont catastrophiques pour l'intérêt général, parce qu'il peut y avoir évidemment un vrai divorce entre intérêt général et opinion publique. Donc la démocratie, on veut pas tomber dans la démocratie des crédules. La démocratie de demain, c'est celle qui saura, alors, moi, je persiste à dire, par l'éducation, mais pas seulement. Ou alors, effectivement, il faut savoir faire confiance. C'est-à-dire, voter finalement pour quelqu'un, c'est aussi déléguer en quelque sorte une partie de sa liberté, une partie de sa décision de choix, par la confiance. Mais on est effectivement face à une crise de la confiance.
Face à cette crise de la confiance, est-ce qu'on peut remettre dans les mains du politique la responsabilité de créer un nouveau projet de société, alors même que ce sont des questions de très long terme, Étienne Klein?
Mais c'est la question du politique, c'est quelle société voulons-nous et quelle place voulons-nous accorder à la technologie dont le cours nous échappe en partie. Maintenant, je suis d'accord avec
Gérald Brunner
pour dire que l'ingénierie dont il parle et reste à inventer, à mettre sur pied. Il faut le faire d'une façon qui ne liquide pas, à mon avis, la connaissance. On pourrait parier sur l'ignorance en disant finalement la connaissance nous apporte toutes sortes de questions nouvelles que nous avons du mal à traiter, donc cessons de l'augmenter et contentons-nous de décider d'un projet qui nous semble accessible. Mais la connaissance doit quand même avoir un rôle important dans le débat par le fait que on ne va pas, par exemple, sauvegarder la biodiversité avec la biologie de Pline l'Ancien. On ne va pas stabiliser le climat avec la physique d'Aristote. Et donc il faut bien tenir compte de ce que nous savons lorsque nous discutons de ce que nous voulons. Et c'est ça qu'il faut mettre sur pied, et c'est ça qui est très difficile.
À défaut de vraies discussions sur le sujet, le progrès qui devait permettre l'émancipation est devenu une source d'assujettissement. On peut penser par exemple aux inventions de Google ou d'autres géants de la Silicon Valley qui sont susceptibles d'entraîner de véritables changements de civilisation. Jean-Michel Benyim.
Oui, mais je crois quand même que le progrès reste associé à l'idée de moralité. Et lorsqu'il s'agit du citoyen, il faut se poser la question de savoir qu'est-ce qui peut le remoraliser, ce citoyen. Et je crois que ce qui peut le remoraliser, c'est qu'il soit mis en situation précisément de prendre en charge les antécédents des discussions, des décisions, hein, et que par conséquent, il participe de la délibération qui, comme le disait Gerhard Bronner, signifie qu'on abandonne la liberté de rester dans l'indécision après discussion. Délibérer, c'est cela, hein, c'est perdre la liberté d'indétermination qu'il y a avant une prise de décision grâce à des connaissances, grâce à la communication de connaissances et parvenir à cela. Donc l'ingénierie du social qu'il faut trouver, elle passera par l'ingénierie du débat. Alors, conférences citoyennes, forums hybrides, tout ce que vous voudrez, il y a tout à inventer là, mais pour remoraliser le citoyen. C'est en le remoralisant qu'on lui redonnera le goût du progrès.
Alors, comment reprendre et peut-être transformer les idéaux des Lumières dans notre société contemporaine ? Écoutons ce qu'en dit le sociologue allemand Peter Wagner.
Dans certains sens, il faut revenir aux idées des Lumières, mais repenser ce que ça veut dire dans la situation actuelle d'être libre et raisonnable et d'utiliser les capacités de raison librement pour améliorer nos sociétés. Et je pense que c'est possible maintenant d'une autre façon. J'ai relu le très beau texte de Foucault sur les Lumières, la réponse de Foucault à Kant deux siècles après. Et en fait, il dit, et c'est un peu surprenant si on regarde la réception de Foucault en général, il se dirige contre les projets radicaux et globaux, je pense que c'est sa formule, parce qu'il dit qu'il ne s'appuie pas sur une analyse de la situation actuelle, ils ne font pas l'épreuve de réalité actuelle. Je pense qu'on vit dans une situation où parfois la conservation bien fait partie du progrès nécessaire.
Voilà, Peter Wagner parle de la conservation. Est-ce que la conservation peut faire partie du progrès, Étienne Klein ?
Oui, absolument. D'ailleurs, c'est ce qui sous-tend l'idée d'innovation. Hein. C'est l'innovation que je l'ai dit, je l'ai pas encore dit, mais c'est un très vieux mot de la langue française. En fait, c'est du bas latin, innovatio, 14e siècle. C'est un terme juridique pour dire un avenant à un contrat. Donc l'innovation, c'est ce qu'il faut ajouter au contrat pour que le contrat ne change pas. Donc il y a toujours cette idée de conservation associée à l'innovation. Maintenant, évidemment qu'il faut revenir à l'esprit des Lumières, mais aussi voir en quoi il a failli et pourquoi il n'a pas permis d'atteindre ce qu'il ambitionnait d'atteindre. Il y a un très beau texte de Solzhenitsyn, c'est la conférence qu'il a donnée à Harvard en 1978, qui s'appelle « Le déclin du courage ». Et Solzhenitsyn dit finalement l'esprit des Lumières, c'est très bien, il faut viser le bonheur terrestre plutôt que l'aspiration au salut. Mais vous, les Occidentaux, et il revient du goulag, vous avez visé trop bas. Vous avez visé le ventre plutôt que la tête. Vous consommez et vous ne réfléchissez plus.
Alors est-ce qu'il faut imaginer paradoxalement que le dernier progrès correspondrait en réalité au fait de renoncer au progrès, ce qui reviendrait peut-être finalement à accepter notre finitude, Jean-Michel Beignet ?
Non, je ne crois pas du tout, il ne faut pas renoncer au progrès, il faut précisément vouloir réactiver ce qu'il y a de symbolique dans l'existence humaine, c'est-à-dire tout ce qui relève du langage, tout ce qui relève d'une intelligence réfractaire aux automatismes, tout ce qui relève de la culture, tous ces éléments-là qui sont écrasés aujourd'hui, et Solzhenitsyn a raison, hein, par une préoccupation presque exclusive pour le bien-être et la consommation. C'est là que les choses se situent. Et d'ailleurs, les mouvements alternatifs qu'on voit ça et là dans les pays technologisés tournent autour de cela, réactiver la dimension symbolique de l'existence humaine.
Un dernier mot peut-être, Étienne Klein, sur cet objectif de réenchanter le progrès et de ne pas abandonner le champ à l'innovation qui représenterait une ambition trop faible.
Moi, je ne dis pas qu'il faut le réenchanter, je dis même qu'il faut le sauver, il faut simplement le faire progresser. C'est-à-dire le soumettre à lui-même et voir en quoi il y a eu des erreurs dans la façon de raisonner que l'histoire a permis d'entrevoir et en tenir compte pour la suite. Et puis rappeler peut-être une anagramme qui est que l'idée de progrès a pour anagramme le degré d'espoir.
Gardez l'idée d'espoir, ce sera le dernier mot. Un grand merci à tous les deux.
Et c'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'Écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Vous avez choisi aujourd'hui de nous parler de la conquête spatiale.
Tout à fait, alors que le programme Apollo se voit ressuscité par un biopic de l'astronaute Neil Armstrong, il était intéressant de s'interroger sur ce qu'il reste de cette fièvre d'innovation qui, en quelques décennies, a vu l'homme passer de l'aviation à la conquête de l'espace. Un saut technologique absolument fantastique quand on pense à l'échelle de l'histoire humaine. Il faut dire qu'à cette époque, l'innovation spatiale était vue comme un outil de puissance, une marque de suprématie dans la course que se livraient les États-Unis et l'URSS pour démontrer l'évidente supériorité de leur modèle. À l'époque, les Soviétiques avaient une avance certaine puisqu'ils avaient été les premiers à envoyer un homme dans l'espace et à effectuer un survol de la Lune. Il était donc primordial pour les États-Unis de laver cet affront en accomplissant un exploit humain, politique et technologique encore plus fabuleux, poser un homme à la surface de la Lune et le ramener sans encombre vers la Terre.
Un demi-siècle plus tard, Arjuna, les choses ont bien changé.
Oui, après avoir atteint son apogée avec le développement de la mission Apollo qui a permis à 24 hommes de fouler le sol lunaire, les moyens dévolus à la NASA n'ont cessé de fondre. Les dimensions symboliques et politiques n'étaient plus suffisantes pour justifier auprès de l'opinion américaine les milliards de dollars investis dans cette course spatiale. Le budget de la NASA est ainsi passé de près de 4,5% du PIB américain en 1966 à moins de 0,5% aujourd'hui. Clairement, l'innovation spatiale ne fait plus partie des priorités américaines pour démontrer sa puissance au reste du monde. La réussite est désormais totalement indexée sur la question de la puissance économique et la capacité à produire de la croissance.
Et c'est désormais à cette fin que sont pensées les logiques de recherche et d'innovation.
Oui, d'ailleurs, ce primat de l'économique sur le politique et cet abandon progressif par les États-Unis d'un récit collectif se sont accompagnés d'un retrait progressif de l'État fédéral de l'économie. En actant la toute-puissance du marché et des acteurs privés, l'État américain a également renoncé à sa capacité à produire un imaginaire collectif, puissant et fédérateur. Le rêve est devenu l'apanage des puissances privées, alors que l'on glorifiait il y a 50 ans encore la dimension héroïque, presque téléologique, de la destinée américaine comme nation choisie. On encense désormais la trajectoire individuelle de milliardaires entrepreneurs qui peuvent se payer le luxe de nous faire rêver par procuration.
C'est ainsi un milliardaire japonais qui devrait être le prochain homme à s'envoler vers la Lune.
Absolument. Il s'agit de l'entrepreneur japonais Yusaku Maezawa, qui a d'ailleurs fait fortune en innovant lui-même dans le domaine du prêt-à-porter, puisqu'il propose d'acheter en ligne des vêtements sur mesure grâce à une série de capteurs qui prennent vos mensurations à distance. Et bien sûr, il sera porté vers les cieux par le grand gourou de l'innovation technologique, le patron de Tesla, Elon Musk. Celui-ci a effectivement lancé un projet de conquête spatiale intitulé SpaceX, qui entend à terme permettre la colonisation d'autres planètes comme Mars.
En attendant, il offre la possibilité de s'envoler vers la Lune en échange quand même d'une coquette somme d'argent.
Oui, et c'est le choix qu'a fait le géant du vêtement, donc Yusaku Maezawa, en déclarant qu'il embarquerait prochainement à bord de la fusée Big Falcon Rocket en compagnie d'artistes triés sur le volet. Et c'est bien l'originalité de ce projet prométhéen. Le magnat japonais a expliqué qu'il voulait aller vers la Lune avec des peintres, photographes, sculpteurs et autres danseurs. Ce voyage participerait donc d'une visée esthétique, initiatique presque, qui permettrait à ses créateurs de s'inspirer de cette excursion spatiale pour nourrir leur imaginaire et leur création. Derrière l'évident effet marketing et publicitaire d'une telle décision, il reste tout de même quelque chose de fascinant, de poétique même, dans le fait de dépenser de telles sommes sans retour sur investissement pour le simple bonheur de s'envoyer en l'air.
Et on va se quitter sur Progress de Tony Allen. Merci beaucoup Étienne Klein et Jean-Michel Beignet de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Étienne Klein, je rappelle votre livre Sauvons le progrès aux éditions de l'Aube et le vôtre, Jean-Michel Beignet, coécrit avec Dominique Bourg. Peut-on encore croire dans le progrès paru au PUF ? Demain, on s'intéressera à l'innovation en Chine. La puissance chinoise est en effet devenue, il y a 2 ans, la championne du monde des dépôts de brevets. En attendant, vous pouvez bien sûr réécouter nos émissions sur franceculture.fr et en podcast. Et rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.